Oui, bon, de retour en direct sur Studio Zef. Il est un petit peu plus de 16h et on continue notre découverte de
15h.
C'est 15h. Hein.
Mais c'est parce que j'ai envie de rentrer très très vite à la maison, c'est pour ça. Je suis encore à l'heure d'été. Enfin, il y a plein d'excuses pour me tromper, il n'y a pas de souci. Donc il est un petit peu plus de 15h et on continue nos tables rondes et nos discussions à la fête de la récup en direct du jeu de paume jusqu'à 18h parce que nous on va faire la fermeture et là il sera vraiment 18h à ce moment-là. Donc voilà, et autour de la table, du coup, j'ai deux nouveaux invités, donc Monsieur Thiollet et Monsieur Marie. Bonjour à vous.
Bonjour.
On connaît, donc vous représentez les deux collectivités territoriales qui organisent aujourd'hui la fête de la récup, à savoir Aglopolis et Valeco. Alors, je pense que l'ensemble de la population, ou la très grande majorité de la population, connaît ces deux collectivités, Aglopolis en particulier, Valeco peut-être un petit peu moins.
Tout à fait.
En préparant, donc vous avez tous les deux mailles à partir sur la gestion des déchets, la collecte et le traitement d'un certain nombre de déchets. Sauf qu'en préparant l'émission, je me suis aperçu qu'on connaissait mal les compétences précises de chacun. On peut commencer déjà par ça, pour savoir, notamment pour permettre aux auditeurs de savoir vers qui s'adresser en cas de problème. Donc pour Aglopolis, quelles sont les compétences sur la gestion des déchets ?
Alors la compétence, il y a des compétences qu'on partage avec Valeco,
ouais.
Et notamment la compétence prévention qui nous permet d'organiser cette fête aujourd'hui. Après, la principale compétence d'Aglopolis, c'est la collecte, là où la principale compétence de Valeco, c'est le traitement. Mais en fait, au fur et à mesure du travail depuis plusieurs années, on se rend compte que des fois, on est sur des trucs entre collecte et traitement, on est sur des choses qui sont finalement très proches. Par exemple, tout ce qui est l'installation de lombricomposteur ou de composteur, c'est pris en charge par Valeco, puisque c'est du traitement et c'est de la collecte à la maison. Donc voilà, c'est principalement ça la différence. Aglopolis s'occupe de la collecte, là où Valeco s'occupe principalement du traitement.
Est-ce qu'il a bien répondu à la question ?
Il a parfaitement répondu. Compétences partagées. D'un côté, il y a la collecte des déchets, au sens le plus large du terme, et d'autre part, il y a le traitement. Alors, quand est-ce que c'est la collecte ? Quand est-ce que c'est le traitement ? Ce n'est pas toujours évident.
D'accord.
Et de toute manière, les deux fonctions de gestion, les deux bras de l'économie circulaire sont intimement liés. Le problème, c'est que les échelles ne sont pas les mêmes. L'important, et le premier geste, c'est bel et bien la récolte. Et la récolte est faite par Aglopolis sur le territoire d'Aglopolis, de la collectivité locale Aglopolis, c'est-à-dire 110 000 habitants. Valeco, qui a comme principale fonction le traitement, je passe rapidement sur les 10 communes de deux intercommunalités où Valeco, historiquement, s'est occupé de collecte, mais c'est pratiquement secondaire dans ses missions actuelles. C'est essentiellement le traitement des déchets ménagers, c'est-à-dire ce qu'on fait une fois que ça a été récolté. Je globalise. Et là, les instruments pour assurer le traitement ne sont pas à l'échelle d'une communauté d'agglomération de 110 000 habitants actuellement. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du 1er janvier 2020, la compétence traitement de Valeco va s'étendre sur un espace beaucoup plus grand en absorbant la compétence traitement du syndicat, je schématise, de Vendôme et d'Amboise pour traiter 250 000 habitants. Essentiellement, l'incinération des déchets ménagers, ce qu'on appelle les ordures résiduelles, celles où on ne peut plus rien faire d'autre que de les traiter. En se disant bien que ces ordures ménagères résiduelles doivent devenir, elles aussi, un des instruments de l'économie circulaire, c'est-à-dire transformer l'énergie de l'incinération de ces produits en notamment électricité, mais essentiellement en chaleur urbaine.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Valeco récolte, récupère les ordures ménagères.
Aglopolis.
Pardon, ouais. J'ai dit quoi ?
Vous avez dit Valeco.
J'ai dit exactement l'inverse. C'est
voilà.
Exactement l'inverse que je pensais. Donc, je reprends. Aglopolis prend en charge la collecte des ordures ménagères, c'est-à-dire
chez les particuliers,
chez les particuliers, dans les déchetteries.
Oui.
Donc les déchetteries, c'est Aglopolis ?
Oui. Les déchetteries, c'est Aglopolis.
D'accord. Et tout ce qui est incinération...
Valorisation du tri.
Valorisation après, du tri.
Une fois que Aglopolis a trié dans les déchetteries, notamment les déchets verts, qu'il faut traiter après pour en faire du compost, ce qui se met essentiellement dans les points d'apport volontaire, le papier, le verre, les cartons, les bouteilles plastiques, etc., sont ensuite traités par Valeco.
D'accord. Par contre, les bennes appartiennent à Aglopolis.
Oui.
Oui.
Voilà. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair. En tout cas, pour moi, ça l'est. J'espère que pour les auditeurs aussi, on va pouvoir un petit peu avancer. Du coup, on a compris que vous travaillez main dans la main, en fait, il y a une vraie synergie entre les deux structures.
Ouais, il y a deux collectivités qui sont imbriquées. Par exemple, tout à l'heure, Christian évoquait les 10 communes qui sont gérées par Valeco pour la collecte. Il se trouve que c'est Aglopolis qui fait la collecte pour ces 10 communes-là. Et c'est vrai qu'il y a des situations historiques qui font qu'il y a un partage qui, par un endroit, peut être flou. Mais là, notamment depuis le début du mandat, même si on est bientôt arrivé à la fin, on a beaucoup travaillé pour faire ensemble en sorte que tout ce qui concernait la prévention soit mené de concert entre Aglopolis et Valeco sur le territoire d'Aglopolis-Valeco.
L'obsession des deux collectivités est la même. Le principal qu'il faut savoir, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fait pas. C'est fondamental.
D'accord. Après, là, en effet, c'est une ambition qui est importante. À l'heure actuelle, justement, on peut y venir, sur la question des déchets qui sont produits. C'est quand même le plus gros volet de la gestion des déchets à l'échelle d'une agglomération. Parce que là, aujourd'hui, on voit un certain nombre d'espaces ou en tout cas d'initiatives de réutilisation, de récupération, etc. Mais on ne peut pas laisser de côté les ordures ménagères qui quand même représentent la majorité du volume de ce qui est produit actuellement.
Oui, mais après, ce qu'évoquait la Christian, c'est que déjà, il faut essayer les ordures ménagères résiduelles qu'on produit tous les jours, c'est d'en sortir un maximum. Donc, il y a déjà les emballages, les papiers qui, avec l'apport volontaire, sont en partie triés. Il y a tout ce qui est ce qu'on appelle le fermenté cible, les déchets organiques qui peuvent être gérés par du compostage collectif qui existe dans certains endroits pour les zones qui sont urbaines.
On fera un plateau avec un certain nombre de personnes qui compostent dans les résidences et chez des bailleurs sociaux tout à l'heure.
Voilà, par exemple, on a aussi commencé cet été une expérimentation avec une micro-entreprise qui s'appelle Cossival, qui fait de la collecte de biodéchets en centre-ville auprès des restaurateurs, parce qu'en centre-ville, là, pour le coup, c'est plus compliqué de collecter les biodéchets. L'enjeu, c'est d'abord, à la source, de réduire un maximum. Et puis, une autre opération qu'on lance maintenant, c'est la troisième année, c'est les poules. C'est de permettre aux familles qui le souhaitent d'avoir des poules chez elles pour pouvoir se débarrasser là d'une plus grande partie des déchets alimentaires, puisque l'avantage, c'est que notamment tous les restes de repas, on peut les donner plus facilement aux poules, ce que éventuellement vous ne pouvez pas mettre forcément dans un compost.
On y reviendra tout à l'heure aux poules, oui. C'est un sujet intéressant. C'est vrai que d'emblée comme ça, c'est un sujet intéressant. Moi, je voulais d'abord qu'on boucle un petit peu, en tout cas qu'on borde un petit peu le débat sur les ordures ménagères. Quel volume a été traité là ces derniers mois? Est-ce que vous avez vu une augmentation, une baisse du volume des ordures ménagères, notamment dans les conteneurs des particuliers?
Alors, je ne pourrais pas vous donner des chiffres précis, ouais. Puisque je les ai pas toujours en tête. On a un point annuel qui nous dit quel est le volume traité par habitant. On sait qu'à peu près au niveau de l'agglomération, on est à 500 kg par an et par habitant qui sont produits. Environ la moitié, c'est de l'ordure ménagère. On est plutôt bon en termes de collecte d'ordures ménagères. On est plutôt moins bon en termes d'apport en déchetterie. Mais l'intérêt de l'apport en déchetterie, c'est qu'une grande partie, en tout cas un peu plus de la moitié de ce qui est apporté en déchetterie, c'est retraité, revalorisé. Mais par contre, c'est vrai que ce que vous mettez dans du tout venant en déchetterie, ça va partir soit à l'enfouissement, soit à l'incinération. Bref, l'évolution depuis nationale, c'est plutôt une tendance à la baisse.
Une tendance à la baisse au cours des 10 dernières années, une diminution se situant entre 7 et 10% par an. Mais on constate, et il faut qu'on en réagisse à ça, depuis un an, deux ans pratiquement maintenant, une stabilisation de cette baisse qui était progressive.
Voilà.
On a travaillé ensemble pendant cinq ans sur un plan local de prévention qui visiblement a porté ses fruits, mais il ne faut pas qu'on baisse les bras. Je reviens sur les biodéchets dont parlait François tout à l'heure, les fermentescibles, comme il disait savamment. Il faut bien se dire que les déchets alimentaires, c'est 90-95% d'eau. Les mettre dans la poubelle qui est ramassée une ou deux fois par semaine, c'est quelque part une bêtise. Si on pouvait l'utiliser autrement, parce que 95% d'eau pour être conduit jusqu'à une usine d'incinération pour être brûlée, l'eau jusqu'à présent n'a pas produit beaucoup d'énergie en brûlant. C'est un exemple concret. Je cite un autre exemple de la nécessité de bien trier pour ne pas tout mettre dans la poubelle. Il se produit en France, il se commercialise en France 600 000 tonnes de vêtements par an. Sont récupérées 170 000 tonnes de vêtements par an pour être recyclées sous une forme ou sous une autre. Vous voyez la marge qu'il peut y avoir,
oui, bien sûr.
Soit en réutilisation, en réemploi, etc. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas imaginer faire de la prévention en distinguant le traitement de la collecte.
D'accord.
Ce qu'on a changé au cours du mandat, c'est notamment on a réduit le passage des bennes.
Oui, oui.
On a fait deux passages par semaine pour la plupart des communes.
Ça a porté ses fruits ?
Oui, ça a plutôt porté ses fruits assez rapidement. On était un peu inquiet sur l'acceptation en fait de la population. Il y a eu quelques endroits où ça a été un peu compliqué, mais finalement très vite les choses se sont rentrées dans l'ordre.
Est-ce qu'on a vu certaines poubelles déborder ou...
En fait, on l'a géré au cas par cas. On a prévenu qu'on allait changer. On a proposé aux gens aussi d'adapter leurs poubelles quand les situations étaient difficiles. Et puis on a répondu en fait aux gens qui nous interpellaient parce que ils craignaient d'avoir des grosses poubelles qui débordent. Ça nous a permis aussi de faire un peu de la prévention auprès de ces personnes-là qui, pour le coup, avaient souvent pas forcément les bons réflexes de tri. La réalité, c'est que la plupart des gens, en fait, déjà sortaient leurs poubelles moins régulièrement et qu'il y avait une grande partie de la population finalement qui était en attente de ça. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait continuer à aller plus loin. Il y a des collectivités qui sont passées à une demi-collecte par semaine. C'est des choses qui sont intéressantes parce que ça permet aussi de faire moins rouler de camions ou en tout cas de les affecter différemment. Donc on a une tendance assez nationale, assez importante qui se reflète au niveau local. On était dans, au-delà de l'objectif qui était fixé de moins 7%. Là, on réfléchit sur le nouveau contrat pour l'incinérateur. C'est assez intéressant de comparer les chiffres des objectifs de l'incinérateur à sa création et la situation dans laquelle aujourd'hui est-ce qu'on projette. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on est à peu près à 50-60% de ce qu'on avait imaginé il y a 15 ans pour l'incinération.
J'ai pas bien compris exactement. Au niveau des chiffres, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'au début, quand on crée l'incinérateur dans les fins des années 90,
oui.
L'objectif, c'est que les déchets produits par l'agglomération, qui avaient à l'époque tendance plutôt à augmenter,
d'accord.
finissent par alimenter essentiellement l'incinérateur.
D'accord.
On n'a jamais atteint ce maximum. Puisque, en fait, au niveau des déchets, il y a eu une production, une augmentation, et on a, depuis maintenant une dizaine d'années, une tendance à la stagnation, voire à la baisse.
Donc
et
l'incinérateur ne tourne pas à plein
L'incinérateur, en fait, pour qu'il tourne, bien sûr qu'il tourne à plein, parce que sinon,
oui,
c'est
non,
pas
ça sert à rien. Non,
mais en fait, du coup, il y a d'autres déchets qui arrivent, par exemple, qui arrivent de Vendôme, qui arrivent d'Amboise, pour faire fonctionner l'usine d'incinération. Mais c'est pour ça, pour vous montrer que les choses ont changé et elles continuent à changer. Il y a clairement, depuis deux ans, un changement assez radical sur les habitudes et les demandes des consommateurs et des habitants sur, par exemple, le vrac, le fait de pouvoir apporter des contenants, sur la question des emballages, etc. Là, on a vraiment des choses qu'ont vraiment changé et que nous, on doit aussi accompagner parce que ça va, pour le coup, vraiment dans le sens qu'on souhaite.
D'accord. Très bien. Vous avez parlé de petites propositions, solutions. Moi, je voudrais qu'on revienne sur deux éléments. Donc, le compostage, on va en parler un peu plus, mais peut-être qu'on peut peut-être expliquer aux auditeurs hein, les actions de prévention et d'incitation au compostage, à qui ça s'adresse et concrètement, quel est un petit bilan des composteurs collectifs et individuels qui ont été déployés là, ces derniers temps ?
Il y a d'abord une stratégie d'incitation au compostage, au compostage domestique, au compostage individuel. Une grande partie de notre diocèse, je dirais, à François et à moi, comporte quand même beaucoup d'habitations individuelles où il y a des jardins. Et Valeco a distribué au cours des dernières années plus de 1000 composteurs de jardins. Et il y a un énorme travail qui est fait dans les écoles notamment, et de sessions de formation ouvertes à tout le monde pour apprendre à composter. Parce que ce n'est pas le tout de mettre ses déchets ménagers dans un composteur, il s'agit aussi de l'optimiser pour faire un engrais naturel et améliorer la structure du sol des petits jardins ou des parterres de fleurs, de façon à ce qu'on ne soit pas obligé d'utiliser des engrais et d'autres méthodes pour bien aménager son petit espace.
Oui, le composteur, c'est 100% gagnant, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on réduit les déchets, gagnant. On améliore la terre.
On n'encombre pas les déchetteries. Et il y a 15 000 tonnes de déchets qui viennent...
Et on le gère en circuit court. Pardon ? Et on le gère en circuit court, on le gère directement chez soi, il n'y a pas de transport.
Et qui sont traités, qui sont ramassés par Aglopolis et qui sont traités par Valeco à la station de compostage qui est à Fossé, qui pose aussi des problèmes. Si vous demandez aux habitants de Marel s'ils aiment la station de compostage, ils vous diront non parce que de temps en temps, il y a quelques petites odeurs. Mais bon, ça fait partie des aléas et des problèmes à gérer. Mais tout simplement 15 000 tonnes qui sont transformées en compost qui est suffisamment bien traité pour qu'il puisse être utilisé en agriculture biologique.
D'accord.
Là encore, circuit court, les maraîchers du Val-de-Loire n'ont pas besoin d'acheter du compost pour améliorer la structure de leur terre à l'autre bout de la terre, indépendamment d'opérations de sensibilisation aux gens, puisque nous vendons à prix coûtant deux fois par an des sacs de compost pour les particuliers.
D'accord. Le compost que vous produisez à Fossé, il est vendu aux professionnels et aux particuliers.
Et aux particuliers de façon ponctuelle. Par des opérations de sensibilisation, mais essentiellement aux agriculteurs et dans les agriculteurs, particulièrement les maraîchers.
D'accord. Et du coup, autre élément là, dont vous avez parlé un petit juste avant, les poules. Ça, je trouve que c'est plutôt original. C'est vrai qu'on n'imagine pas forcément... des poules en ville, on n'imagine pas forcément ça. Et ensuite, on n'imagine pas forcément qu'avoir des poules chez soi, c'est un facteur de réduction des déchets. Alors, est-ce qu'on pourrait penser que les poules et le compost, c'est un petit peu redondant ? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est complémentaire ?
C'est complémentaire. Après, ça dépend comment les familles gèrent. C'est vrai que pour avoir des poules, il faut avoir un espace pour installer un poulailler. Pour le coup, là, c'est une opération commune, en fait, où Aglopolis fournit les poules et Valeco finance l'équipement du poulailler. Et après, en fait... Ça dépend de l'espace et du temps et des familles. On essaye d'accompagner aussi les familles parce que les poules sont des animaux domestiques dont il faut s'occuper. Hein. Il faut les soigner, il faut aller chercher les œufs tous les matins, ça paraît important. Ça crée un lien souvent dans les familles avec enfants, c'est souvent très bien vu et très bien perçu. Il y a des familles qui ont abandonné leur compost parce qu'elles avaient des poules. Il y en a qui ont gardé les deux parce que les poules, elles mangent régulièrement, mais elles ne mangent pas non plus tout. Ça dépend après de la taille de la famille et comment c'est géré et de l'espace qu'on a dans son jardin.
D'accord, très bien. Eh ben, merci. On a fait un bon tour.
Merci beaucoup.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci.
Rappelez à vos auditeurs que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.
Tout à fait d'accord. Et oui. Et après, on aurait d'autres choses à discuter et le débat pourrait continuer, notamment sur. Vous parlez du vrac, etc. Mais ça se développe, certes, notamment en grande surface. Malgré tout, on sent que le poids de l'emballage dans ce qu'on achète est quand même malgré tout encore très important. Et là, malgré tout, j'ai pas l'impression que les collectivités territoriales ont du poids par rapport à ça.
Alors les collectivités territoriales en elles-mêmes, elles n'ont pas de poids parce que c'est pas nous qui décidons des emballages qui sont faits par les professionnels. Mais les collectivités territoriales, elles sont organisées par l'Association des maires de France ou il y a un syndicat qui s'appelle Amorce qui rassemble tous les, en gros, les syndicats de traitement au niveau national qui font pression au niveau du gouvernement pour que ça change. Mais ce qui est le plus efficace, c'est la demande des consommateurs. Quand les consommateurs, s'ils se sont mis en vrac dans les grandes surfaces, c'est pas que par philanthropisme. C'est parce que c'est une demande assez forte des consommateurs et qu'aujourd'hui, ils commencent à penser les choses différemment. Il y a des épiceries en vrac qui sont ouvertes, alors plutôt dans les grandes villes. Il y en a eu deux qui sont installées à Tours. À Blois, c'est dans les rayons de certains supermarchés. Et puis, c'est aussi les artisans. La disparition du sac plastique... c'était il y a une dizaine d'années, on a commencé à l'évoquer, il y a des gens qui disaient ah, mais non, c'est impossible, on peut pas faire autrement. Aujourd'hui, tout le monde a pris l'habitude de faire sans sac plastique. Donc maintenant, il faut continuer à aller plus loin et puis envisager de ramener ses contenants pour faire ses courses. Et il y a un niveau d'acceptabilité et de demande de la population qui est beaucoup plus fort qu'il y a quelques années.
Très bien.
Est-ce que je peux lancer un message encore?
Allez-y.
Et après je me tairai.
Oui.
Il faut rappeler à tout le monde que les points d'apport volontaires ne sont pas des dépôts de déchets. Le nombre de personnes, quand ils viennent avec bonne conscience déposer dans un conteneur le verre, dans un autre conteneur le papier, ce qui n'est pas à mettre dans ces deux conteneurs n'est pas à mettre à côté des points d'apport volontaires. L'argent, le temps utilisé par les mairies pour entretenir la propreté de ces points d'apport volontaire est absolument impressionnant. Il faut que tout le monde sache qu'il y a des déchetteries, il y a la benne, le conteneur d'ordures ménagères résiduelles et il y a les points d'apport volontaires. Il ne faut pas tout confondre.
Très merci. Bien. Ben, merci pour ce message. Moi, je vous propose qu'on retourne à la place musicale et... On va peut-être bientôt diffuser l'interview réalisée avec donc Mathieu Duméry qui se reproduit tout à l'heure en spectacle dans la salle à côté. Donc si vous voulez entendre ce qu'il a à dire sur son spectacle, sur sa façon de travailler avant de venir le voir, voilà, vous pouvez rester à l'écoute de Studio Zef. À tout de suite.